Littérairement vôtre.
Bonjour et bienvenue. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour Carmen. Bonjour tout le monde.
Alors aujourd'hui, dans Littérairement vôtre, nous allons vous faire découvrir ou redécouvrir l'auteur Alain Fournier, connu pour son ouvrage sous le titre de...
Le Grand Molne.
Eh oui, Le Grand Molne. Un roman publié en 1913 qui évoque deux couples au destin croisé. D'une part, Augustin Molne, qui lors d'une noce à laquelle il participe, par hasard, tombe amoureux de la jeune Yvonne de Galais. Et d'autre part, Franz de Galais, frère d'Yvonne, qui doit épouser Valentine Blondeau, mais celle-ci quitte son fiancé le jour du mariage. L'histoire se déroule en 1890 à Sainte-Agathe, village fictif de Sologne. Nous allons tout d'abord évoquer cet auteur à travers une biographie, puis nous lirons en deux parties un extrait de son roman. Jean-Paul.
Alain Fournier, pseudonyme d'Henri Aban Fournier, est né le 3 octobre 1886 à la chapelle d'Angillon, dans le Cher. Est un écrivain français dont l'œuvre la plus marquante, restée célèbre, est Le Grand Molne. Ses parents sont tous deux instituteurs. Il passe son enfance à Épinal, le Fleuriel. Il sera, 7 ans durant, l'élève de son père et il aura pour compagne de jeu et de lecture sa sœur Isabelle. Henri a 12 ans lorsqu'il part pour Paris où il commence ses études secondaires au lycée Voltaire, récoltant presque tous les prix. Il rêve d'être marin et en septembre 1901, il convainc ses parents qu'il lui faut aller à Brest, préparer le concours d'entrée à l'école navale. L'expérience étant trop rude, il renoncera 15 mois plus tard. Il prépare le baccalauréat au lycée de Bourges et l'obtient en juillet 1903. Il va poursuivre ses études supérieures de lettres au lycée Lacanal à Sceaux, de 1903 à 1906. C'est là qu'il rencontre Jacques Rivière, avec lequel il se lie d'une amitié profonde. Lorsque Jacques repart à Bordeaux, en 1905, il entretient avec lui une correspondance presque quotidienne. Il prépare le concours d'entrée à l'école normale supérieure au lycée Louis-le-Grand de Paris, concours qu'il n'obtiendra pas. Il a 18 ans lorsqu'en juin 1905, il croise à la sortie d'une exposition au Grand Palais une grande et belle jeune fille qui ne lui dira son nom que 10 jours plus tard, Yvonne de Quévaucourt. Mais cet amour est impossible. Yvonne est fiancée et épousera effectivement l'année suivante un médecin de marine, dont elle aura 2 enfants. Bouleversé par cette brève rencontre, Fournier ne cessera, 8 années durant, de penser à la jeune femme et de l'évoquer dans ses correspondances. Il s'en inspirera pour le personnage d'Yvonne de Galais dans Le Grand Molne. Il est engagé en 1910 comme chroniqueur littéraire à Paris Journal. Il commence à publier quelques poèmes, essais ou contes qui connaissent quelques succès. Il rencontre alors plusieurs grands peintres et écrivains de son temps. Maurice Denis, André Gide, Paul Claudel. Il se lie d'une grande amitié avec Charles Péguy et Marguerite Audoux. Mais surtout, il élabore lentement l'œuvre qui le rendra célèbre, Le Grand Molne, qui paraîtra en volume en novembre 1913. En 1912, il devient secrétaire de Claude Casimir Perrier, fils de l'ancien président de la République. Il fréquente dès lors l'épouse de celui-ci, Pauline Manda, célèbre au théâtre sous le nom de Madame Simone. Simone révélera en 1957 la liaison passionnée, souvent orageuse, qu'elle a eue à partir de juin 1913 avec le jeune écrivain de 9 ans, son cadet, dans son livre « Sous de nouveaux soleils ».
Alain Fournier est fréquemment reçu dans leur propriété de Trilaville, où sont également accueillis Charles Péguy ou Jean Cocteau. Le Grand Molne paraît dans la Nouvelle Revue française entre juillet et octobre 1913. Le roman manquera de peu le prix Goncourt. Il sera néanmoins salué presque unanimement par la critique de l'époque. Alain Fournier écrira en 1914 plusieurs chapitres de son second roman, qu'il appelle alors « Colombe Blanchet », qu'il ne pourra achever avant la déclaration de guerre. Il en reste aujourd'hui 7 chapitres inachevés et quelques esquisses et notes publiées en 1990. Il a également une liaison avec une jeune femme de chambre, Jeanne Bruneau, qui apparaît dans le Grand Molne sous les traits de Valentine Blondeau, la fiancée de Franz de Galais. Durant cette même année 1913, Fournier rencontre pour la première fois Yvonne de Gèvrecourt. Pour la seconde fois, pardon. Les chastes retrouvailles ont lieu au cours de l'été à Rochefort-sur-Mer, où la jeune femme, mère de 2 enfants, est de passage chez ses parents. Le jeune homme est bouleversé. Il échangera encore quelques lettres avec Yvonne de Gèvrecourt, mais ne la reverra pas. En octobre 1913, il lui envoie son premier exemplaire dédicacé du Grand Molne, sur papier Japon, le plus beau des papiers de luxe. Et il attend en vain sa réponse. Yvonne refusera toute sa vie de parler à ce sujet. En 1964, le fameux exemplaire qui était censé être en la possession de la famille de Gèvrecourt se retrouve à la salle Drouot, où il est vendu 3 millions de francs. On apprend ainsi le nom de celle qui inspira Yvonne de Galais. Lieutenant de réserve, mobilisé le 2 août 1914, Fournier part rejoindre son régiment. Avec sa compagnie, il prend part à plusieurs combats meurtriers autour de Verdun. Le lieutenant Fournier n'a été officiellement déclaré mort pour la France qu'en juin 1920. Il est ensuite décoré de la croix de guerre avec palme et nommé chevalier de la Légion d'honneur à titre posthume. La légende d'un écrivain mort pour la France en pleine jeunesse après avoir écrit un seul roman a sans doute contribué à assurer la fortune littéraire d'Alain Fournier. Son nom figure sur les murs du Panthéon à Paris, dans la liste des écrivains morts au champ d'honneur pendant la Première Guerre mondiale. Alain Fournier est généralement considéré comme l'auteur d'un seul livre. Son roman, Le Grand Molne, alors qu'il avait 27 ans, mais ce n'est pourtant pas son seul écrit. C'est d'abord par des poèmes en vers libres qu'Alain Fournier manifeste à partir de l'été 1904, il a 17 ans, son désir de devenir écrivain. Quelques-uns de ses poèmes et nouvelles ont été publiés de son vivant dans diverses revues, connaissant un certain succès.
Le grand jeu. Le grand vent et le froid, la pluie ou la neige, l'impossibilité où nous étions de mener à bien de longues recherches nous empêchèrent, Molne et moi, de reparler du pays perdu, avant la fin de l'hiver. Nous ne pouvions rien commencer de sérieux durant ces brèves journées de février. Ces jeudis sillonnés de bourrasques qui finissaient régulièrement vers 5 heures par une morne pluie glacée. Rien ne nous rappelait l'aventure de Molne, sinon ce fait étrange que depuis l'après-midi de son retour, nous n'avions plus d'amis. On récréation, les mêmes jeux qu'autrefois s'organisaient. Mais Jasmin ne parlait jamais plus au Grand Molne. Les soirs, aussitôt, la classe balayée, la cour se vidait comme au temps où j'étais seul. Et je voyais errer mon compagnon du jardin au hangar et de la cour à la salle à manger. Les jeudis matins, chacun de nous, installé sur le bureau d'une des deux salles de classe, nous lisions Rousseau et Paul-Louis Courier, que nous avions dénichés dans les placards, entre des méthodes d'anglais et des cahiers de musique finement recopiés. L'après-midi, c'était quelques visites qui nous faisaient fuir l'appartement, et nous regagnions l'école. Nous entendions parfois des groupes de grands élèves qui s'arrêtaient un instant, comme par hasard, devant le grand portail, le heurter, puis s'en aller. Cette triste vie se poursuivit jusqu'à la fin de février. Je commençais à croire que Molne avait tout oublié. Lorsqu'une aventure, plus étrange que les autres, vint me prouver que je m'étais trompé et qu'une crise violente se préparait sous la surface morne de cette vie d'hiver.
Ce fut justement un jeudi soir, vers la fin du mois, que la première nouvelle du domaine étrange, la première vague de cette aventure dont nous ne reparlions pas, arriva jusqu'à nous. Nous étions en pleine veillée. Mes grands-parents repartis restaient seulement avec nous, Milly et mon père, qui ne se doutaient nullement de la sourde fâcherie par quoi toute la classe était divisée en 2 clans. À 8 heures, Milly, qui avait ouvert la porte pour jeter dehors les miettes du repas, fit « Ah !» d'une voix si claire que nous nous approchâmes pour regarder. Il y avait sur le seuil une couche de neige. Comme il faisait très sombre, je m'avançais de quelques pas dans la cour pour voir si la couche était profonde. Je sentis des flocons légers qui me glissaient sur la figure et fondaient aussitôt. On me fit rentrer très vite et Émilie referma la porte frileusement. À 9 heures, nous nous disposions à monter nous coucher. Ma mère avait déjà la lampe à la main lorsque nous entendîmes très nettement 2 grands coups lancés à toute volée dans le portail à l'autre bout de la cour. Elle replaça la lampe sur la table et nous restâmes tous debout, aux aguets, l'oreille tendue. Il ne fallait pas songer à aller voir ce qui se passait. Avant d'avoir traversé seulement la moitié de la cour, la lampe eut été éteinte et le verre brisé. Il y eut un court silence et mon père commençait à dire que c'était sans doute lorsque tout juste sous la fenêtre de la salle à manger qui donnait, je l'ai dit, sur la route de la gare, un coup de sifflet partit strident et très prolongé, qui dut s'éteindre jusque dans la rue de l'église. Et immédiatement derrière la fenêtre, à peine voilée par les carreaux, poussée par des gens qui devaient être montés à la force des poignets sur l'appui extérieur, éclatèrent des cris perçants. « Amenez-le, amenez-le !»
Emmenez-le, emmenez-le! À l'autre extrémité du bâtiment, les mêmes cris répondirent. Cela avait dû passer par le champ du père Martin et devait être grimpé sur le mur bas qui séparait le champ de notre cour. Puis, vociféré à chaque endroit par 8 ou 10 inconnus aux voix déguisées, les cris de « Emmenez-le !» éclatèrent successivement sur le toit du cellier qu'ils avaient dû atteindre en escaladant un tas de fagots adossés au mur extérieur. Sur un petit mur qui joignait le hangar au portail, sur le mur grillé de la route de la gare où l'on pouvait facilement monter. Enfin, par derrière, dans le jardin, une troupe retardataire arriva qui fit la même sarabande, criant cette fois « À l'abordage !» Et nous attendions l'écho de leurs cris résonnés dans les salles de classe vides, dont ils avaient ouvert les fenêtres. Nous connaissions si bien, Molne et moi, les détours et les passages de la grande demeure, que nous voyons très nettement, comme sur un plan, tous les points où ces gens inconnus étaient en train de l'attaquer. À vrai dire, ce fut seulement au tout premier instant que nous eûmes de l'effroi. Le coup de sifflet nous fit penser à tous les quatre à une attaque que de rôdeurs et de bohémiens. Justement, il y avait depuis une quinzaine, sur la place, derrière l'église, un grand malandrin et un jeune garçon à la tête serrée dans des bandages. Il y avait aussi, chez les charrons et les maréchaux, des ouvriers qui n'étaient pas du pays.
Mais dès que nous eûmes entendu les assaillants crier, nous fûmes persuadés que nous avions affaire à des gens et probablement à des jeunes gens du bourg. Il y en avait certainement des gamins. On reconnaissait leur voix suraiguë dans la troupe qui se jetait à l'assaut de notre demeure comme à l'abordage d'un navire. « Ah bien, par exemple !» s'écria mon père. Émilie demanda à mi-voix. « Mais qu'est-ce que cela veut dire ?» Lorsque soudain, les voix du portail et du mur grillé, puis celles de la fenêtre, s'arrêtèrent. Deux coups de sifflet partirent derrière la croisée. Les cris des gens grimpés sur le cellier, comme ceux des assaillants du jardin, décrurent progressivement, puis cessèrent. Nous entendîmes le long du mur de la salle à manger le frôlement de la troupe qui se retirait en hâte et dont les pas étaient amortis par la neige. Quelqu'un, évidemment, les dérangeait. À cette heure où tout dormait, ils avaient pensé mener en paix leur assaut contre cette maison isolée à la sortie du bourg. Mais voici qu'on troublait leur plan de campagne. À peine avions-nous eu le temps de nous ressaisir, car l'attaque avait été soudaine comme un abordage bien conduit, et nous disposions-nous à sortir, que nous entendîmes une voix connue appeler à la petite grille. « Monsieur Serel, Monsieur Serel !»
C'était Monsieur Pasquier, le boucher. Le gros petit homme racla ses sabots sur le seuil, secoua sa courte blouse, saupoudrée de neige, et entra. Il se donnait l'air finaud et effaré de quelqu'un qui a surpris tous les secrets d'une mystérieuse affaire. J'étais dans ma cour, qui donne sur la place des quatre routes, j'allais fermer les tables des chevreaux. Tout d'un coup, dressé sur la neige, qu'est-ce que je vois ? Deux grands gars qui semblaient faire sentinelle ou guetter quelque chose. Il était vers la croix. Je m'avance, je fais deux pas, hip ! Les voilà partis au grand galop, du côté de chez vous. Ah, je n'ai pas hésité. J'ai pris mon falot et j'ai dit « Je vais aller raconter ça à M. Sorel ». Et voilà qu'il recommence son histoire. J'étais dans la cour, derrière chez moi. Sur ce, on lui offre une liqueur, qu'il accepte. On lui demande des détails qu'il est incapable de fournir. Il n'avait rien vu en arrivant à la maison. Toutes les troupes mises en éveil par les deux sentinelles qu'ils avaient dérangées s'étaient éclipsées aussitôt. Quant à dire qui ces estafettes pouvaient être, ça pourrait bien être des bohémiens, avançait-il. Depuis bientôt un mois, qu'ils sont sur la place à attendre le beau temps pour jouer la comédie, ils ne sont pas sans savoir, sans avoir organisé quelques mauvais coups. Tout cela nous avançait guère, et nous restions debout, fort perplexes, tandis que l'homme sirotait la liqueur et de nouveau mimait son histoire. Lorsque Molne, qui avait écouté jusque-là attentivement, prit par terre le falot du boucher et décida. « Il faut aller voir. » Il ouvrit la porte et nous le suivîmes. Monsieur Serel, Monsieur Pasquier et moi. Milly, déjà rassurée puisque les assaillants étaient partis, et comme tous les gens ordonnés et méticuleux, fort peu curieuse de nature, déclara « Allez-y si vous voulez, mais fermez la porte et prenez la clé. Moi, je vais me coucher. Je laisserai la lampe allumée. »
Voilà, c'était un extrait du Grand Molne. Mais moi, j'ai pas fini. J'ai quelque chose à te dire, Jean-Paul. Ce roman, savais-tu que c'était l'œuvre littéraire la plus traduite dans le monde, juste après Le Petit Prince ?
Ah non, je ne le savais pas.
Eh bien voilà, maintenant tu le sais.
Bon, j'espère que cet extrait vous aura sensibilisé à la lecture. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine aventure littéraire. À bientôt.
À bientôt. Au revoir Jean-Paul.
Au revoir. Au revoir Carmen. Et littérairement vôtre.
Littérairement vôtre.